CKRL à $12 au lieu de 20. Pendant 5 semaines et jusqu'à épuisement des stocks, nos 5 variétés de t-shirts seront offertes en alternance pour seulement $12. Du 18 au 22 juillet, le bleu. Passez-nous voir sur semaine de 9h à 17h au 405 3e avenue.
1970, 8 étudiants de l'Université Laval préparent un dossier en vue de l'obtention de permis du CRTC dans le but de créer une station de radio.
Démontre tous les points de l'espace.
1972, le permis est accordé. 15 février 1973, CKRL 89.1 émet pour la première fois à 17h. Point de départ de ce qui deviendra une aventure d'une richesse inégalée. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL, est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices, toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Du 7 au 17 juillet, Tania Beaumont en direct du Sacrilège vous présente C'est dans le sac de 15h à 18h. Encore une fois cette année, elle reçoit les artistes et artisans du Festival d'été édition 2011 en compagnie d'une équipe hors pair. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pendant les 11 jours du festival. Une collaboration du bar Le Sacrilège, la bière Boréale et Contact Musique.
Avant, j'étais pas bien. Pas bien avec moi, pas bien avec personne. Avant, je me faisais peur. Mais c'était avant. Avant, quand j'étais toxicomane.
Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Au Québec, des milliers de personnes sont toxicomanes. Aidez-les à s'en sortir. Donnez à portage. Visitez portage.ca.
Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donnez à portage. Merci.
C'est KRL 89.1. Cultive tes goûts.
Bonjour à tous, c'est Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutez dès maintenant et de midi à 13h l'émission Au 7e ciel, regard sur le cinéma. Une émission qui, comme son titre l'indique, avec un peu de lyrisme, s'intéresse principalement au cinéma sous toutes ses formes. On le décortique sous toutes ses coutures. Qui sait à quel point le cinéma aujourd'hui prolifère un peu partout. C'est comme un point aveugle. Il est partout et nulle part. Il s'agit pour moi, dans cette émission, de le débusquer parfois là où on s'y attend pas. C'est-à-dire sous des modes de diffusion qui correspondent pas nécessairement au cinéma traditionnel, au cinéma tel qu'on l'entend. On sait à quel point des films, on en voit aussi bien à la télévision, sur Internet, dans les galeries, dans les musées, que dans les salles d'exploitation habituelles. Donc, comment débusquer les films? Là, on s'y attend pas. C'est aussi une manière de dire que parler des films aujourd'hui de façon stimulante, c'est aussi s'intéresser à ce qui sort du lieu commun. Évidemment, ça a toujours été le principe par lequel il a été possible dans l'histoire du cinéma et dans l'analyse des films, dans la connaissance qu'on a pu avoir au fil des ans du cinéma, ça a été une méthode pour mieux l'appâter, pour mieux le maîtriser, pour mieux comprendre ce qui font les ressorts de l'art cinématographique, comment s'exprime le cinéma, qu'est-ce qui fait sa particularité et comment s'est-il développé au fil des ans, comment aujourd'hui les films peuvent nous surprendre alors que c'est tellement un mode d'exploitation industrielle qui a proliféré partout qu'on a du mal peut-être à être surpris, à se prendre à rêver en regardant un film comme si on découvrait cette forme d'expression pour la première fois. Je dis pas que mon enthousiasme va être à la hauteur de ce que je dirais tout au cours de l'émission, mais au moins je vais essayer de prendre à la lettre et me lancer ce défi, parler des films autrement. voir comment aujourd'hui c'est possible d'aller au cinéma comme si un monde s'ouvrait à nous qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et aujourd'hui, c'est un peu le mot d'ordre ou l'idée que je me suis lancée au mois de juillet. J'ai envie de me concentrer sur un cinéaste contemporain. Les deux émissions précédentes étaient consacrées à deux cinéastes qui sont des emblèmes, si on veut, de la modernité, du moins dans le cinéma français, soit François Truffaut et Chabrol, qui négocient chacun à leur façon le tournant des années 50-60 dans le cinéma, qui fait en sorte que les films qu'on y voit à partir de ce moment-là sont davantage dans une réflexion sur le legs des années. Qu'est-ce qu'ont apporté les cinéastes antérieurs à Truffaut et Chabrol? C'est un des angles par lesquels on peut comprendre leur travail et leur progression. Comment aussi... en particulier pour Chabrol, il est possible de parler de l'époque contemporaine sans pour autant renier des thématiques qui étaient déjà en place dans son cinéma dans les années 60, puisque Chabrol a fait des films jusqu'à sa mort, en fait, donc jusqu'à la fin des années 2000. Ça, c'était la première mouture d'une série d'émissions que j'ai envie de faire autour d'un seul cinéaste, avec quelques séquences à l'appui, des extraits sonores. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur un créateur que peut-être on connaît moins, dont on a moins la chance de voir les films dans des contextes normaux, par exemple, ne serait-ce qu'une définition, une diffusion télévisuelle. Je veux parler d'un cinéaste sud-coréen qui s'appelle Aung San-Suu. Aung San-Suu, c'est un cinéaste qui est peut-être une des figures fortes du renouveau du cinéma en Asie et particulièrement en Corée. Au début des années 2000, il y a une grande vague de création, une grande vitalité en Corée du Sud depuis le début des années 2000, qui tend à se tarir parce qu'il y a eu des changements sur le plan politique dans le soutien aux œuvres qui complexifient les choses, sans compter le fait que, comme partout ailleurs en Corée du Sud, la manière de présenter les films aujourd'hui change, se transforme, on ne sait pas où ça s'en va, et ça crée une forme de crise qui en ce moment est un peu globale, un peu internationale. Peut-être que l'Inde est à part là-dedans, ou les Philippines, mais en particulier, tout ce qui a trait au grande cinématographie, notamment le Japon, si on s'en tient à l'Asie. Le Japon, qui était quand même une des cinématographies hors de l'Occident les plus reconnues, même si on prend l'Occident au sens large, évidemment, le Japon est certainement, entre certainement dans l'idée élargie de l'Occident, au moins dans son sens le plus évident, le plus capitaliste. Le Japon étant évidemment une sorte de miroir déformant et presque futuriste de la grande montée du capitalisme au XXe siècle partout en Occident. Et en particulier, un miroir déformant des États-Unis. On sait comment le cinéma japonais reprend à son compte les films de genre pour mieux les pousser parfois à l'extrême. Quand je parle de films de genre, je parle entre autres du cinéma policier, du cinéma d'horreur. Ça vaut aussi, ce que je dis pour le Japon vaut aussi pour Hong Kong. Hong Kong serait peut-être un peu l'équivalent chinois éternellement en exil de ce qu'on retrouve aussi au Japon. Donc, deux cinématographies qui aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles étaient. Le Hong Kong et le Japon étaient même jusqu'à la fin des années 90 deux lieux importants de la création cinématographique en Asie, qui avaient une industrie comparable à celle qu'on connaît en Occident, et même en dialogue avec la production américaine. On sait que beaucoup de cinéastes comme John Woo, Tsui Hark ont quitté leur Hong Kong chéri pour aller tourner aux États-Unis. Pour ce qui est de la Corée du Sud, c'est moins évident. Et c'est clair qu'on a vu comme ça un glissement peu à peu, surtout de Hong Kong, mais aussi du Japon. Prépondérance de ces cinématographies qui peu à peu s'effacent au profit de la Corée du Sud dans les années 2000. Et Aung San-Suu s'inscrit donc dans ce nouveau souffle qui surgit de la Corée, mais ce qu'il propose, c'est un cinéma qui est en dialogue avec la production occidentale, mais davantage dans un sens, je dirais pas restrictif, mais dans un sens plus pointu, plus artisanal, proche des films de la Nouvelle Vague en particulier, et proche d'Éric Rohmer. Donc il y a une anomalie comme ça dans le cinéma coréen, qui est Aung San-Suu, tout à fait en dialogue avec le cinéma d'Éric Rohmer, mais aussi en dialogue avec le cinéma indépendant américain, On a juste à penser aux moyens que mobilise Aung San Suu pour faire ses films. Et d'ailleurs, de plus en plus, il y a une progression là-dedans. Donc, moins en moins d'argent de film en film. Jusqu'à un certain point, ça rejoint une période dans le cinéma d'Éric Rohmer qui alternait des films plus financés à des films carrément fauchés, mais fauchés de façon volontaire. Dans les années 80, Rohmer était un peu dans ce jeu d'alternance constant. Pour ce qui est d'Aung San Suu, c'est peut-être lié au fait que la Corée du Sud a eu une sorte de renouveau que je viens de décrire à l'instant au début des années 2000 et quand maintenant, en ce moment, ça se tarit et les cinéastes tels qu'Aung San Suu doivent trouver des nouvelles stratégies de financement, une nouvelle manière de fonctionner pour maintenir leur production. Et s'il y a une plus grande pauvreté, une plus grande indépendance dans son cinéma, c'est pas simplement parce qu'il en a l'envie, c'est aussi par nécessité. Donc, une émission qui va être principalement consacrée à Aung San Suu autour de quelques films, je dirais sa période la plus récente, qui va être mise en relief avec ses premiers films. À tout de suite.
Thank you. 그건 마셔.
그래.
뭘 어떻게 증명하려는 거예요?
이거 좀 줘봐. 나 이거 좀 찢어줘. 어? 이거 찢어봐. 어? 이거 좀 찢어봐. 어? 누가 나 좀 찢어줘. 어? 찢어줘! 찢어줘! 가?
내가 얼마나 기다렸는 줄 알아? 내가 자기 얼마나 기다렸는 줄 아냐고. 어?
기다렸냐? 정말로?
Eh bien, une séquence plutôt frappante du film La femme et l'avenir de l'homme de Aung San Suu, réalisé en 2004, qui est, je crois, son cinquième film. Et là, j'ai une séquence frappante parce que pendant que je vous fais jouer l'extrait sonore, moi, j'ai le film sous les yeux. Donc, je suis en mesure de voir ce qui se passe. Mais peut-être que vous, chers auditeurs qui ne pipez mot du sud-coréen, ben, j'espère que certains d'entre vous sont assez avisés pour avoir fait les études de linguistique nécessaires préalables à cette émission. Évidemment, je blague. Pourront déchiffrer ce qui se passe. Mais en fait, si on s'en tient simplement au son, il est assez difficile de voir ce qui se passe dans ce film, dans cette séquence du film de Aung San Suu. Mais par contre, on peut très bien saisir l'ambiance, le minimalisme qui s'accorde assez bien avec une tension intérieure des personnages. Donc, quand je dis tension intérieure, c'est-à-dire expression d'un désarroi, le plus souvent sentimental dans les films d'Aung San Suu, qui se fait dans un cadre très, très intime. La plupart des films de Aung San Suu donc sont entrer dans les clichés en fait du cinéma de mœurs asiatique, sont teints d'un certain minimalisme, dans la mesure où... il y a des séquences typiques dans ces films, donc des séquences qui reviennent de film en film, qui ne mobilisent pas nécessairement beaucoup de moyens, beaucoup de techniciens, etc. Donc, ils privilégient la petite équipe, ils privilégient la petite troupe d'acteurs. Certains acteurs reviennent d'un film à l'autre. C'est pas pour rien. Ça permet à Aung San Suu de faire des films sur une base régulière, au moins un film par année, si c'est pas deux. Et ces séquences-là, minimales, qui reviennent de façon récurrente, en particulier, ce sont celles où plusieurs personnages, parfois des couples qui se font, qui se défont. Il y a un marivaudage typique du cinéma français que l'on retrouve transposé dans un contexte sud-coréen. Ces couples qui se font et se défont, sous nos yeux, boivent sans arrêt pendant la séquence qu'on voit. Et tout cela est propre, avec des gestes et des actions assez simples qui mobilisent très peu de gens, à créer une tension entre les personnages. du moment qu'il y a un peu de flou sur le, au niveau sentimental, un peu de tentation non avouée entre les personnages, ça devient évident si on commence à les faire boire. C'est-à-dire que non seulement Sang-Soo fait boire ses personnages, normalement on dirait pas ça en fait, on dit pas un auteur fait boire ses personnages, on dira simplement les personnages boivent dans le film. Mais Aung San-Soo, dans sa volonté de créer une petite équipe, un microclimat, une réelle tension entre les acteurs et chez chacun des acteurs, les fait boire vraiment. Donc, il y a des tests d'endurance qui, parfois, participent même du travail d'audition, de casting que fait Aung San-Soo en amont de son film. Et alors là, ces acteurs, ces actrices aussi vont peut-être boire jusqu'à plus soif, jusqu'à temps d'être brisé au niveau de l'endurance et être incapable de rendre leur réplique. Et à ce moment-là, Aung San-Soo et son équipe quantifient le niveau d'alcool, de riz que les acteurs sont potentiellement capables d'absorber. Et il va réduire ça de moitié ou même des deux tiers. C'est-à-dire que si une actrice ne supporte pas de jouer au-delà de 8 ou 9 verres, ben, il va simplement réduire la consommation sur le plateau à 2 ou 3 verres, de telle sorte que il y aura une saoulerie assez prégnante, assez évidente à l'écran pour que l'acteur ou l'actrice n'ait qu'à exagérer un tant soit peu cette saoulerie, ne serait-ce que par son conditionnement d'acteur. C'est-à-dire que puisque l'acteur joue et qu'il souligne parfois des sentiments, des expressions, en lui donnant quelques verres à boire, ben là, c'est clair que ce soulignement, cette expressivité va devenir un peu caricaturale, un peu excessive et aller tout à fait en phase avec l'excès que veut rendre Aung San-Soo et qui est toujours le propre, en fait, d'une situation sentimentale insupportable, insoutenable, qui en vient à s'exprimer socialement au moment où les personnages ont un peu trop bu. Donc, c'est pas un cinéma simplement d'alcoolique ou d'alcoolo, comme on pourrait le pressentir si on s'en tenait simplement à la description que je viens de faire de la méthode Aung San-Soo pour des séquences qui reviennent de film en film. Mais quand même, on peut dire que une des volontés de son cinéma, c'est d'arriver à un point où l'expérience de l'alcool est semblable à celle que l'on peut avoir, nous, comme spectateurs, lorsque on est face à des situations un peu statiques au cinéma, à des répétitions aussi d'une séquence à l'autre, où finalement on finit par être un peu saoulé par le système narratif que propose le cinéaste. Donc ce goût de la répétition, de la thématique qui fonctionne de film en film et qui est presque circulaire, en fait, est tout à fait en phase avec ce qu'il montre au sein de ses films, c'est-à-dire l'obsession, le taux d'alcoolémie extrêmement élevé qui va avec le tournage d'un certain nombre de séquences.
Su mélanger, fallait être un peu fou pour pouvoir l'inventer. Lui, c'était peut-être la lune qu'il avait vue ronde, qu'il avait vue tourner. Pourquoi pas la décrocher? Mais qu'est-ce qu'avait pu l'amener à vouloir s'en aller? C'était quoi son projet? Tu t'es jamais demandé? Pédaler aussi vite que l'éclair,
pédaler,
dépasser,
pédaler,
faire le tour de la terre,
pédaler
aussi vite que l'éclair,
pédaler,
dépasser,
pédaler,
pour te retrouver.
Thank you.
avait décidé à inventer la roue, à la fabriquer. Elle s'était avancée, elle a su retourner. Elle fallait être un peu fou pour vouloir l'inventer. Lui, c'était peut-être la lune qu'il avait vue ronde, qu'il avait vue tourner. Pourquoi pas la promettre?
C'est KRL 89.1. Cultive tes goûts.
Officiel de CKRL à 12$ au lieu de 20. Pendant 5 semaines et jusqu'à épuisement des stocks, nos 5 variétés de t-shirts seront offertes en alternance pour seulement 12$. Du 18 au 22 juillet, le bleu. Passez nous voir sur semaine de 9h à 17h au 405 3e avenue.
De Christine Brouillette à Albert Camus, en passant par Anne Hébert et Roger Lemelin, nombreux sont les écrivains qui ont flâné dans Québec. La promenade des écrivains vous propose de suivre leurs traces au gré des textes qu'ils ont laissés. En 2 heures de flânerie et à travers des lectures commentées, vous découvrirez une ville réinventée où la fiction se marie au réel. La promenade des écrivains, 8 parcours différents et autant d'expériences fascinantes tout au long de la belle saison. Pour plus de détails, rendez-vous sur promenade-écrivain.qc.ca.
François va s'en tirer. 6 mois de convalescence et ça devrait aller. François aimerait juste comprendre pourquoi. Pourquoi le conducteur qui l'a frappé sur le chantier routier où il travaillait n'a pas respecté les consignes du signaleur? Pourquoi avoir roulé comme si de rien n'était? Cloué à son lit d'hôpital, François voudrait juste savoir pourquoi.
Dans les zones de chantier routier, respectez les consignes du signaleur. Un message du gouvernement du Québec.
À CKRL, l'été, des nouveautés francophones y en pleut. Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30, votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Coup.
Plus de 10 heures de nouveautés chaque semaine.
L'innovation seulement au 89.1.
CKRL 89.1.
뭐예요? 소주 먹고 있었어요, 혼자?
저 감독님 좋아하는 타입이죠.
예, 좋아요.
감독님하고 섹스 안 해요. 저 감독님하고는 섹스 안 해요. 아까 내 친구하고 그렇게 맹세했어요. 우리 섹스 안 해요?
네, 섹스 안 해요, 우리. 안 들어갈래요?
네? 제가 해장국 해드릴까요? 우리한테 재료 다 있는데.
해장국이요?
콩나물 해장국 해드릴게요. 진짜 맛있게 할 수 있는데.
아니 근데 친구 자고 있을 거예요 지금.
자고 있으면 어때요? 진짜 맛있게 할 수 있는데.
그래요.
아, 우리 그거 해볼래요? 아까 이쪽에서 어떤 사람이 했는데.
뭐요?
나 그거 너무 하고 싶었어.
뭐요? 진짜 취했구나. 아니 어떡하지?
감독님 해봐요. 아니, 진짜
나,
해봐요.
난 못해요. 못해.
사랑해요.
아유.
Oui, alors on vient d'entendre un autre extrait d'un film de Hong Sang-soo. Encore une fois, je souligne, vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma, jusqu'à 13h. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à un réalisateur sud-coréen et je m'applique à présenter des extraits sonores de ces films qu'ensuite je traduis et que j'explique. Même si, évidemment, pour la plupart des auditeurs, je suppose que le coréen n'est pas nécessairement une langue qui soit la première ou la deuxième que vous maîtrisiez, il y a moyen d'entendre par le travail sur le son, par la mise en son du film, une partie du style de Hong Sang-soo. Et puis si je vous ajoute les éléments, dramatiques, ce qui est dit dans les dialogues, dans l'extrait que j'ai présenté, ben là vous allez quand même avoir déjà une idée un peu plus grande que, disons, si je faisais simplement traduire des situations, comme je vais le faire maintenant. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de Woman on the Beach. Je donne le titre. Évidemment, je donne le titre anglais. C'est un film qui n'a pas été distribué en Amérique du Nord et à part dans les cinémathèques. Moi, je l'avais vu à la Cinémathèque québécoise dans une rétrospective Hong Sang-soo il y a déjà 3 ans. Donc, Woman on the Beach est le titre qu'on retrouve sur l'édition DVD faite par New Yorker Films vers la fin des années 2000. Dans ce film de 2006, dans la séquence que je viens de faire jouer, on voit donc le personnage principal qui est en fait un réalisateur de film et une des protagonistes du film qui est en fait simplement une voyageuse, quelqu'un qui est de passage sur les lieux où le cinéaste aimerait peut-être filmer sa prochaine œuvre, mais aussi est allé se ressourcer là avec tout d'abord son scénariste, ensuite il verra si le lieu l'inspire et s'il réussit de toute façon à avoir assez de matière pour un prochain projet. Donc il rencontre cette femme qui fait suite à une autre femme qui l'accompagnait en fait plus tôt au début du film. Et en ce moment, la séquence se déroule que j'ai fait jouer se déroule la nuit sur la plage et tout le monde a un peu bu. Je décrivais tout à l'heure à quel point l'alcool joue un rôle important dans le cinéma d'Hong Sang-soo. Si je le dis, c'est pas simplement parce que ça m'amuse, mais parce que c'est vraiment un thème, un aspect important de son cinéma. Donc, les deux personnages sont assez sous sur la plage, c'est la nuit, et tout à coup, la protagoniste affirme un peu pompette au réalisateur qu'elle ne couchera pas avec lui. Le réalisateur accepte cette situation, lui fait répéter cette affirmation, elle le répète, puis lui il concède un peu plus, il confirme, nous ne coucherons pas ensemble. Puis ensuite vient le moment où la jeune femme que le réalisateur a rencontrée peu de temps avant se met simplement crier « I love you » ou « I love you », »,« je t'aime », là, je fais simplement relire les sous-titres qui apparaissent sur l'écran devant moi. Je ne suis pas en train de dire que on va passer en mode anglo-saxon d'ici la fin de l'émission. Donc, le réalisateur trouve ça un peu ridicule, mais finalement, dans un élan juvénile, il lui fait un peu la même chose que la protagoniste. Et il y a une sorte de joie presque enfantine qui se fait jour dans ce contexte-là. Donc, c'est pour donner un peu la couleur de ce film, Woman on the Beach, qui est un peu un tournant dans la cinématographie d'Aung San Suu, si on veut saisir un peu comment se développe son cinéma, qui a commencé à la fin des années 90, début 2000. Donc, un cinéma qui devient de plus en plus léger et qui reprend léger en termes de moyens, après une reconnaissance internationale assez forte des premiers films d'Aung San Suu. C'était une nouvelle approche dans la mise en scène, dans le contexte du cinéma coréen, qui tout à coup résonnait fortement pour les spectateurs et les critiques de festivals de cinéma, parce que très souvent, ce sont des films qui ont une vie de festival, mais très peu de vie en dehors de la France, je dirais, et de quelques salles d'art et d'essai aux États-Unis, une vie assez relative là, hors du contexte des festivals. Donc, il y a eu une reconnaissance comme ça, très rapide, du travail d'Aung San Suu, sans doute aidé par son réseau. Il avait ses amis en France. Il a également étudié à l'Art Institute of Chicago. Donc, il avait aussi une bonne connaissance, sans doute, des réseaux du cinéma américain d'auteurs, et aussi de ce qui fait mouche, peut-être, dans une certaine frange du public cinéphile. Donc, c'est une frange qui, visiblement, voit du cinéma contemporain coréen là où on ne s'attendait pas à le voir. On est très loin du cinéma, peut-être d'un des contemporains. On pourrait le donner un exemple de Aung San Suu qui s'appelle Park Chan-wook, qui correspond peut-être davantage à l'idée qu'on se fait du cinéma d'auteur de Corée ou du Japon, très marqué par le cinéma de genre, dont l'exemple le plus fort peut-être au Japon demeure Takeshi Kitano, qui a si bien récupéré à la fois ce qui faisait la particularité du cinéma de samouraï pour mieux en faire une forme contemporaine dans un certain nombre de films, et également il a repris Kitano des éléments du cinéma policier plutôt américain, plutôt français via les films de Jean-Pierre Melville, pour les ramener dans un contexte japonais via les films de Yakuza, qui est une sorte de cinéma de genre aussi à sa manière, proche du cinéma de mafia, mais vraiment ramené à des rituels et à des codes qui correspondent à la tradition japonaise. Donc c'est ce genre de cinéma-là peut-être qu'on attend plutôt dans le cinéma d'auteur qui marche et qui nous vient de l'Asie en Occident. Pourtant, Aung San Suu va plutôt sur un terrain où on verrait bien s'exhiber de jeunes Woody Allen en puissance ou de jeunes Eric Rohmer en puissance, si ça se peut, puisque c'est quand même des cinéastes qui ont traversé plusieurs décennies et qui n'ont pas jamais vraiment laissé leur place, donc qui ont, pour ce qui est évidemment de Woody Allen, des individualités très fortes, assez peu marquante, même si je dirais que Allen a été assez influencé par Rohmer. Au-delà de ça, c'est pas des cinéastes qui ont une influence déterminante sur ce qui se fait dans le cinéma contemporain actuellement. Et pourtant, Aung San Suu, aux antipodes, donc à l'autre bout du monde, fait un cinéma qui se rapproche assez de deux individualités fortes du cinéma d'auteur américain et français. Voilà une forme de stratégie qui n'est pas la moindre des originalités de son cinéma. J'y reviens à l'instant.
Je suis venu te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, qu'un petit futur, tout petit futur, dans ce vrai désert. Je suis venu te dire qu'on a plein de choses à se dire, autant à faire, cet hélicoptère, moi il me fait pas peur. Je suis venu te dire, un décor en hauteur, les hauts en couleur, c'est fou ce qui m'attire, ce grand ascenseur. Je suis venu t'offrir, ce ticket
tickets pour ailleurs. Ce billet de retour, c'est pour tout à l'heure. Je veux reprendre place là où on s'était caché. Tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé. Et je veux reprendre ma place là où je m'avais laissé. Là où on s'était caché. Changé de te dire qu'il fallait revenir, qu'on devrait revenir. J'aimerais réinscrire sur la carte du ciel ton joli sourire plus haut que Babel. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché. Ni que je suis au regret, ni que je suis au regret. Je suis venue tenir mon discours sur l'amour. Il ne fait pas mon affaire, ce petit détour. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché. Tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé. Et je veux reprendre ma place là où je l'avais laissé.
Sur les ondes de KRL, vous écoutez Au 7e ciel, regard sur les cinémas, une émission qui se déroule de midi à 13h. On entre dans le dernier quart d'heure. Cette semaine est entièrement consacrée à un cinéaste important de la première décennie du 21e siècle, Aung San Suu, cinéaste sud-coréen, assez peu connu, comme je le disais juste avant la pause musicale, hors du circuit des festivals du cinéma, d'autant plus légitime d'en parler aujourd'hui, qu'il a réalisé environ 3 films dans la dernière année et demie. Donc quelqu'un de très productif, dont les œuvres circulent sur une base constante dans les festivals, ce qui lui permet de garder une certaine vigueur ou une reconnaissance, au moins au niveau critique, en dehors du contexte sud-coréen. Peut-être qu'il pourrait faire un peu moins de films et avoir davantage de visibilité ou de succès, mais en même temps, on voit que son travail s'alimente en fait d'une création, d'une nécessité de produire sur une base régulière. Disons, ça fait partie de ses qualités, de son intérêt, de remettre tout le temps sur le plat des thématiques, des obsessions qui sont il est tout à fait logique qu'il ait fait autant de films puisque son cinéma est principalement obsessionnel et tient à quelques motifs. J'ai donc dit dans la première partie de cette émission comment Aung San Suu était proche du cinéma occidental, comment il était en dialogue avec ce cinéma-là. Je dirais que au-delà des références européennes et américaines, en fait surtout européennes, que l'on retrouve dans son cinéma, il y a une volonté, je pense, chez Aung San Suu de faire corps avec l'acte de création cinématographique de telle sorte que, d'une façon ou d'une autre, Ces films vont être aussi un commentaire sur le cinéma aujourd'hui, un certain état des lieux du cinéma aujourd'hui, non seulement dans le contexte de production qui est le sien, sur le contexte de la Corée du Sud, mais également le contexte plus large, plus nécessaire en ce qui le concerne pour qu'il y ait un peu de résonance, pour qu'il y ait un peu de résonance de son travail, soit le milieu des festivals à un niveau international. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller au BAFICI, le Festival de cinéma indépendant d'Amérique latine, qui se déroule à Buenos Aires chaque année au printemps. Et son dernier film, en fait, son avant-dernier film, puisqu'il en a fait un autre qui est sorti tout juste après, en fait, le mois suivant, il était présenté à Cannes. Mais son avant-dernier film s'appelle AAA, et il était présenté dans ce contexte-là. Peu avant, on pouvait voir le film tout juste précédent, je crois, au Festival du Nouveau Cinéma. Et c'est sans compter un autre court film qu'il a réalisé. Donc ça, c'est dans la dernière année et demie. Donc, tout un travail de production long cours. Si vous regardez si vous avez la chance de voir ce film qu'on peut commander au moins sur Amazon, donc Woman on the Beach, vous allez trouver dans les bonus une intervention de Martin Scorsese qui, d'une certaine manière, en tant que grand réalisateur américain, vient authentifier la reconnaissance à un niveau international du travail d'Aung San Suu. Et c'est devenu maintenant presque un classique ou, je voulais dire, en fait, un cliché des DVD de cinéma d'auteur qui sortent aux États-Unis, que d'avoir une sorte d'effet d'authentification ou de reconnaissance par le témoignage d'un créateur ou, au pire, d'un critique américain reconnu en amorce ou en bonus au DVD. Donc, c'est le cas d'Aung San Suu. Et ça renforce aussi cette idée que j'aurais tendance à avoir dans les derniers films de cet auteur, selon laquelle ces films s'alimentent essentiellement du cinéma et de la planète cinéma, du cinéma comme laboratoire par lequel il est possible d'exprimer un peu la vie telle qu'elle va dans le monde contemporain, d'une façon qui ne soit pas possible autrement qu'avec les moyens du cinéma. Donc, pour se rapprocher au plus près de cela, pour Aung San Suu, il s'agit de parler également de choses simples, de sujets qui sont très proches de lui. Et c'est en ça aussi que je voulais dire tout à l'heure que son cinéma est pas si éloigné d'Éric Rohmer ou même du cinéma d'auteur tel qu'on l'a pensé, par exemple chez John Cassavetes dans les années 60, dans les premiers films de Scorsese. Le cinéma d'auteur était aussi une façon de témoigner de manière autobiographique des préoccupations d'un auteur. Donc, principalement en se basant sur ce que le cinéaste connaissait, une matière qui était proche de lui. Et la matière la plus proche d'Aung San Suu, son laboratoire intime, c'est un peu, puisque c'est un workaholic avant d'être un alcoolique, quelqu'un qui fait des films sur une base régulière, plus d'une fois par année, le laboratoire de sa vie est d'autant plus renforcé, permis par le fait qu'il est constamment sur des plateaux de tournage. Et ces derniers films se déroulent souvent sur des plateaux de tournage, en tout cas les fictions qui sont montrées dans ces films se déroulent souvent sur des plateaux de tournage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas en train d'exalter la vie telle qu'elle peut s'exhiber dans un contexte plutôt narcissique comme on se l'imagine avec le cinéma. Au contraire, ce que tendance à faire Aung San Suu, c'est montrer l'amont ou l'aval de la création cinématographique. Donc, des fois, le plateau de tournage ou juste avant, mais assez peu, finalement. Parce que, par exemple, si on prend Woman on the Beach, ce qu'on voit, c'est davantage un scénariste qui est un peu en panne, qui se déplace, quitte son port d'attache pour aller un peu pour se placer un peu avec son scénariste en état de vacances, de telle sorte que ses souhaits d'avoir de nouvelles idées pour un prochain film vont émerger. Et cet état de vacances, ben c'est un peu une des propositions archétypales de beaucoup de films qui ont été réalisés, évidemment, dans le cinéma d'auteur, peut-être, mais au-delà. Donc, une occasion idéale, si on veut, pour exprimer, peut-être, de façon un peu décontractée, les préoccupations les plus intimes des personnages qui sont sortis de leur quotidien habituel, où on suppose qu'ils seraient un peu abruti, un peu plus mécanisé, qui amènerait pas le même genre de portrait de mœurs. Donc, ce qui intéresse Aung San Suu, comme beaucoup de cinéastes qui ont eu envie de faire des portraits de mœurs, c'est de sortir du cadre habituel quotidien dans lequel sont engoncés ces personnages, et la création cinématographique lui permet ça aussi. Donc, je dirais que le monde du cinéma agit aussi comme une forme de métaphore, de microcosme du monde où se déploient les mœurs de personnages ou d'individus au sens le plus large, donc tel qu'ils se déploient en société. Le fait que lorsqu'on fait un film, on mobilise beaucoup de gens, toute une équipe qui normalement ne se rencontre pas, que cette équipe-là va être déplacée donc dans des lieux où elle n'est pas généralement, je parle pour la plupart des films, évidemment, il y a des occasions, par exemple, dans des films qui se déroulent, pour des films qui se déroulent dans des grands centres urbains, de tourner dans les lieux qui correspondent peu ou pou, ni plus, à peu près aux lieux où habitent finalement les gens de l'industrie qui sont convoqués pour réaliser un film. Donc, là, c'est pas du tout ça. Ce que propose Aung San Suu comme manière de voir le cinéma, c'est un microcosme qui est légèrement décadré par rapport au quotidien des personnages et qui correspond à l'état de vacances. Donc le cinéma agit comme microcosme du quotidien déplacé de personnages, mais aussi fonctionne comme un effet de miroir avec l'état de vacances, avec l'idée d'être en vacances, d'être en dilettante, d'être ouvert aux possibilités, aux rencontres fortuites, etc. Ce que permet tout à fait, très souvent en fait, le tournage des films, où tout à coup on crée un micro-monde un peu replié sur lui-même, l'espace de quelques temps. Et on dirait que Aung San Suu, je dirais en tant que workaholic et qu'alcoolique, et en tant qu'obsessionnel intense, a envie d'aller retrouver de manière constante cette réalité-là, parce qu'il va, et ça, ces derniers films en témoignent aussi avec leur dimension autobiographique, le fait que ces films se déroulent dans des contextes où finalement des gens du milieu du cinéma sont convoqués, le film va lui permettre, créer beaucoup de films, va lui permettre d'être toujours un peu en décalage, toujours un peu détaché de la réalité quotidienne telle que la vivent la plupart des gens autour de lui et autour de nous, je dirais, si on se met dans un contexte québécois, c'est la même chose. Si quelqu'un d'aventure a l'occasion de travailler sur des films sur une base régulière, ben, il risque de se retrouver dans le même état. Et c'est en ça que le cinéma d'Aung San Suu, de manière très subtile, je veux dire, au-delà des mondanités, au-delà du narcissisme propre parfois à l'industrie cinématographique, convoque le milieu cinématographique au sens le plus profond du terme, parce qu'il il suggère, à travers ses films aussi, un état d'esprit, une disposition particulière que l'on trouve difficilement ailleurs que dans le monde du cinéma. Et c'est en ça que le film d'Aung San Suu et les films d'Aung San Suu sont très précieux aujourd'hui, parce qu'ils nous renseignent d'un certain état des lieux du cinéma et d'une difficulté à fonctionner dans une industrie qui s'effrite, qui est complexe, qui prend des nouvelles voies, qui sont autant d'interrogations, autant d'intrigues. Et le puisier fictionnel que ça implique pour Aung San Suu est littéralement abyssal. Donc, ce serait mon commentaire un peu sur le cinéma de ce créateur particulièrement surprenant, sud-coréen, que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Vous avez écouté Au 7e ciel, Regard sur le cinéma. De retour la semaine prochaine, toujours de midi à 13h le samedi. Je vous dis à bientôt pour une autre émission qui sera consacrée cette fois-ci à un cinéaste plus classique que Aung San Suu.